Troisième temps de notre semaine qui, en ces temps de rentrée universitaire, est consacré au mouvement et aux formations des étudiants d'Afrique noire après les indépendances. Dans l'émission d'archives de ce mercredi, nous vous proposons, avec Séverine Yattar, qui a préparé cette semaine avec nous, une émission sur la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, créée en 1950-1951. Grâce au texte lu pour nous par Daniel Königsberg et aux analyses de nos invités, nous allons raconter l'histoire de cette fédération qui a joué un rôle très tôt, un rôle dans l'indépendance de ces pays africains, mais également dans l'idée du panafricanisme. Avec nous, pour parler de la FEANF, Fabienne Guimond, auteure des étudiants africains en France 1950-1965, qui a été publié en 1997 à l'Harmattan, mais également Françoise Blum, elle est ingénieure de recherche au CNRS, au Centre d'Histoire Sociale du XXe siècle, et auteure de Révolutions africaines, Congo, Sénégal, Madagascar, années 60-70, qui vient de paraître il y a deux semaines aux presses universitaires de Rennes. Commencer cette émission d'archives avant d'écouter les textes qui seront lus pour nous par Daniel Königsberg. Eh bien, nous écoutons une archive de la Radio Nationale. Nous étions en février 1951 et l'émission Ainsi va le monde s'inquiétait des conditions matérielles de vie des étudiants africains d'Afrique noire en France.
Il y a à Paris près de 2000 étudiants africains. Nous avons donc invité ce soir à notre micro messieurs Keke et Da Silva ainsi que mademoiselle Choki. Nous allons essayer de pénétrer avec eux dans l'intimité des étudiants africains de Paris, de voir un peu comment ils vivent et de rechercher ce qu'il faudrait pour qu'ils fussent, comment dirais-je, plus heureux. Je m'adresse d'abord à M. Keke. C'est un grand garçon au visage très fin et très ouvert qui fait sa licence en droit.
Je suis né au Dahomey. J'ai fait mes études à Saint-Louis. Car au
Dahomey,
à Saint-Louis du Sénégal, au Dahomey, il n'y avait pas de lycée. Pas plus que dans les autres colonies de l'Afrique occidentale française, sauf au Sénégal. J'ai donc fait mes études secondaires à Saint-Louis du Sénégal, où j'ai préparé ma première partie du bachot. La deuxième partie, je l'ai passée en France, à Paris.
Au lycée Henri IV.
Au lycée Henri IV.
Ah, voyez-vous. Eh bien, une fois arrivé à Paris, vous avez dû vous habituer à la vie de la capitale.
Ça a été dur. J'étais dépaysé.
En quelle saison êtes-vous arrivé?
Je suis arrivé en plein hiver, au mois de février.
Avec des vêtements chauds?
Je suis arrivé sans par-dessus.
Oh là là.
Et je vous dirais que de mon temps, il n'y avait aucun service d'accueil. Alors quand j'étais donc arrivé, il fallait me trouver un logement. J'ai donc pu avoir une chambre dans un hôtel en m'adressant à la rue Turbigo.
Mais la question de nourriture, vous avez pris vos repas dans les restaurants universitaires?
Mes repas dans les restaurants universitaires, effectivement. Je n'ai pas eu beaucoup à souffrir des mets français parce que déjà dans le lycée où j'étais à Saint-Louis, les mets étaient presque les mêmes.
Suffisamment épicé pour un Africain?
Ah non, ça là, de ce côté, non.
En réalité, mes chers amis, vous n'êtes peut-être plus dépaysés, mais vous demeurez très isolé en France, et cela souvent pendant plusieurs années, puisque vous n'allez pas passer vos vacances en Afrique. Alors, je m'adresse de nouveau à mon ami Keke, qui préside, et qui préside très bien, l'une de vos associations, celle des étudiants d'Aoméa. Monsieur Keke, est-ce que un certain nombre de vos camarades ne seraient pas heureux d'être reçus quelques heures chaque semaine dans des familles parisiennes? Keke, répondez-moi en toute sincérité.
Les avis sont partagés là-dessus.
Vous avez peur, je crois
si comprendre. On nous invite, si c'est pas une curiosité d'exotisme que nous sommes invités à aller dans ces familles, naturellement, mes camarades sont contre, et pour cause, moi aussi.
Il n'est pas question de ça, c'est une question d'amitié.
Si c'est la manifestation d'une franche cordialité, et nous ne demandons pas mieux, et nous serions très heureux d'être reçus dans les familles françaises.
Voici donc ce que disait, bonjour Séverine Yattar, vous avez choisi cette archive dans les archives de l'INA, une archive assez formidable, qui était en plus longue évidemment, que ce que nous avons écouté. Voici ce que disait donc la Radio Nationale en février 1951, qui est une date importante. Bonjour à vous Fabienne Guimond.
Bonjour.
Et bonjour à vous Françoise Blum.
Bonjour.
Une date importante pour le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, puisque c'est la date de création de cette FEANF. Voici ce qu'on disait plus ou moins à la Radio Nationale sur ces étudiants. Fabienne Guibon, c'était d'abord les conditions matérielles qui intéressaient, et puis peut-être aussi le relatif petit nombre de ces étudiants à Paris dans ces années-là. On était autour de 2000 étudiants, c'est ce que disait le reportage en tous les cas.
Oui, c'était autour de 2000 étudiants dans les années 50. Ça a été beaucoup plus et en progression nette dans ces années-là pour arriver autour de 8000 dans les années 60. Mmh. Et en fait, 2000 étudiants, on trouve ça peu, mais en fait, c'est déjà un nombre assez important parce que dans les années 20-30, il y a eu les premiers étudiants africains qui sont arrivés en France, qui étaient un peu les pionniers, avec notamment Léopold
Sédar
Senghor. Et eux, ils étaient vraiment
une poignée
d'étudiants africains, alors que là, c'était l'issue un peu du système colonial qui arrivait un petit peu à échéance, si on peut dire, avant la lettre. C'est-à-dire qu'ils avaient commencé à faire des écoles primaires et des collèges, qu'on n'appelait pas encore collèges, mais il n'y avait pas encore de lycée dans les territoires d'outre-mer. Et donc, pour que l'Union française de 46 puisse trouver une application et que les étudiants puissent avoir les mêmes examens, les mêmes droits, la citoyenneté française et accéder aux mêmes études, il fallait qu'ils aillent dans des lycées, et les lycées étaient en France puisque, comme le rappelait l'étudiant, il n'y avait qu'un lycée au Sénégal et une université simplement française à Dakar. Oui.
Ce qu'on entend aussi dans cette archive, c'est que ce monsieur Kéké préside déjà une association, donc une association des étudiants dahoméens, alors qui précède, qui anticipe la création de la FEANF, qui elle-même va se constituer d'une certaine manière de toutes ces associations d'étudiants, donc du Dahomey, du Sénégal, du Mali. Alors voilà, enfin, c'est une question plutôt. Comment est-ce que ça précède ou est-ce que ça vient après? Enfin, comment se structure cette FEANF finalement?
Françoise Blum.
Oui, alors en fait, il y avait effectivement, avant même la création de la FEANF, quelques associations territorial, entre guillemets, puisque les nations n'existaient pas encore à cette époque-là, évidemment. Il y avait en particulier les plus anciennes, il y avait les étudiants togolais qui étaient déjà regroupés dans une association, les étudiants camerounais qui sont toujours un peu spécifiques, on en reparlera sans doute. Vous savez qu'à partir de 55, le Cameroun est en guerre, donc les problèmes posés sont particuliers. Il y avait donc, là on vient de l'entendre, les étudiants dahoméens. Il y avait aussi à Paris une association générale des étudiants d'Afrique noire. À Paris.
Et il y avait les Malgaches aussi, qui avaient depuis 1934 leur propre
exactement, qui
avaient
depuis 1934 leur association, l'AEOM, Association des étudiants d'origine malgache, qui a toujours été effectivement à part, mais qui aura des relations, tout ce qu'il y a de plus cordial, avec la FEANF. Ils ont une antériorité. Pour beaucoup de choses, d'ailleurs, les Malgaches ont leur propre spécificité, tout en militant dans certains cas avec la FEANF et en ayant une partie d'intérêt commun. Si je peux me permettre de revenir un petit peu sur ce que disait Fabienne, à juste titre, je crois que ce qu'il faut noter avant toute chose, c'est que l'Empire français avait une politique d'enseignement extrêmement malthusienne. Et que donc, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la donne change et on va essayer de rattraper ce qui n'avait pas été fait. Quand l'interview qui a été faite là, l'université de Dakar n'est pas encore créée.
Non, 57.
Elle est créée en 57, voilà, c'est ça. C'est la première université de l'Empire français d'Afrique. La deuxième, ça sera Tananarive en 1960. La troisième, Abidjan en 64. Donc, il n'y a pas d'autre choix pour des études supérieures que de venir en France. Et quand les universités vont être créées, elles seront encore débordées par la nécessité d'instruire beaucoup d'étudiants. Et en plus, elles n'auront pas toutes les filières. D'où le recours qui se perpétuera en France.
Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une petite géographie, parce que vous l'avez tenté dans votre livre qui vient tout juste de paraître, Françoise Blum, de cette présence africaine à Paris en particulier. Ils se retrouvent où, ces étudiants? Ils vont où? On a entendu Henri IV, par exemple, mais pour certains d'entre eux, ils doivent se retrouver, j'imagine, du côté de la Cité internationale. Quels sont les endroits où se regroupent ces étudiants et où ils peuvent discuter? Ces endroits, évidemment, sont les prémices partie d'une organisation qui va devenir la FEANF, qui est l'organisation panafricaine par excellence, en tout cas avec des vertus, des volontés bien panafricaines sûr. Par excellence, Françoise
bien
Blum.
Bien sûr. Alors, vous posez, en posant cette question, le problème du logement des étudiants africains. Mmh. Il y a les lieux de rencontre, il y a le logement, et quelquefois, lieu de rencontre et logement, c'est la même chose. Alors, Fabienne en a d'ailleurs fait l'analyse très pertinente dans son livre. Elle nous en reparlera, je pense. Alors, déjà, les étudiants africains arrivant en France ont un gros problème qui est celui du logement. Donc, jusqu'en 1955, aucune institution ne s'occupe de les loger. Et il y a donc le recours soit à la cité universitaire, aux cités universitaires, à Paris, le boulevard Jourdan, ou la cité universitaire d'Antony, la cité Jean Zay. Il y a aussi les foyers nationaux qui vont être construits pour certains dans ces années-là. Et il y a des HLM, quelquefois. Et il y a aussi les logements chez les particuliers. Mais là, ça pose problème. Il y a une enquête, par exemple, en 1961 ou 62, menée par Locaux, qui témoigne du fait que 40% des propriétaires qui louent leurs chambres aux étudiants refusent de les louer à des étudiants d'outre-mer. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Mais pour revenir à votre question, les grands lieux de rencontre, ça sera essentiellement la cité universitaire du boulevard Jourdan, celle d'Antony pour Paris bien sûr, celle d'Antony à moindre degré, et également un immeuble qui appartient, qui va appartenir au territoire puis aux États d'Afrique de l'Ouest, qui est le 69 boulevard Poniatowski.
Qu'on appelle Ponia.
Qu'on appelle familièrement Ponia.
Voilà. On va commencer la lecture de ces textes avec vous, Daniel Koenigsberg, en lisant tout d'abord les buts de cette FEANF fixée lors des fameux congrès constitutifs, l'un à Lyon et l'autre à Bordeaux, c'est ça, Françoise Blum, les deux, ou Fabienne Guimond, les deux congrès constitutifs de 1950, l'un au printemps, l'autre en hiver, qui donc crée cette fédération des étudiants d'Afrique noire en France dont nous parlons dans cette émission de la Fabrique de l'Histoire. Daniel Koenigsberg.
Premièrement, grouper toutes les associations d'étudiants africains en France. Deuxièmement, défendre les intérêts matériels et moraux de ces étudiants. Troisièmement, établir et entretenir des relations avec les associations d'Afrique noire dont les activités sont compatibles avec celles de la fédération, les instituts scientifiques et les établissements d'enseignement d'Afrique noire, les associations, fédérations françaises ou internationales, dont les activités sont compatibles avec celles de la fédération. Quatrièmement, représenter officiellement les associations d'étudiants d'Afrique noire auprès de toutes les autorités administratives et universitaires. Envoyer, si besoin, des délégations chargées de défendre leurs intérêts auprès des autorités administratives locales, métropolitaines et africaines. Cinquièmement, étudier les problèmes relatifs à l'Afrique noire, diffuser par tous les moyens la connaissance des milieux africains et faire connaître à ses membres les milieux français et étrangers. Sixièmement, servir d'intermédiaire entre ses membres et les comités et associations d'aide aux étudiants.
Et vous évoquiez, Françoise Blum, Locaux, hein, Office de coopération et d'accueil universitaire. Il faut peut-être préciser de quoi il s'agit, ou Fabienne Guimond. Et à la fin de ce texte, d'ailleurs, la FEANF dit bien qu'elle doit servir d'intermédiaire avec justement l'administration française et les organes qui s'occupent de l'accueil des étudiants africains.
On l'entend bien là dans les buts de la FEANF. Les étudiants africains en France sont porteurs d'une mission historique. C'est souvent des fils de paysans qui sont là en France pour éclairer les masses qui restent en Afrique. Donc ils veulent aussi être des interlocuteurs responsables. On l'entend dans les buts. Et en fait, à côté des buts syndicaux d'une fédération d'étudiants classique, qui avec des besoins réels, on a vu au niveau du logement, au niveau du paiement des bourses, etc., ils veulent jouer un rôle d'intermédiaire, de rouage entre l'État français et les étudiants, puis entre les États africains et les étudiants après. On verra comment ils sont évincés. Mais cet engagement syndical va se transformer progressivement en engagement politique très très fort.
Mais Locaux, donc justement, est-ce qu'ils vont devenir concurrents de cette fameuse office d'accueil? Comment sont les relations?
On l'a vu, c'est en 1950 que la FEANF est créée. Et 5 ans après, simplement, le gouvernement français met en place l'Office des étudiants d'outre-mer, donc qui sera l'organe en fait de gestion des étudiants administrativement au niveau des bourses et du paiement des bourses et des logements, mais qui sera aussi l'organe de contrôle justement et de surveillance de ces étudiants. Et ça s'affirmera puisque cet organe se transforme en OCO, Office de coopération et d'accueil universitaire, qui aura clairement un rôle de surveillance auprès de ces étudiants.
Alors il y a quelque chose quand même qu'il faut préciser qui change considérablement par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est que ces étudiants circulent librement entre leur pays, entre l'Afrique et la France. Ils peuvent aller et venir comme ils le souhaitent. On est dans le cadre d'un empire relativement libéral au point de vue de la circulation de ses membres. Et cela, Françoise Blum, c'est très important parce que ça explique aussi comment on peut venir à Paris, repartir dans son pays et faire des allers-retours en permanence. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, on sait que la question des visas est très différente. Fabienne Guimond voulait intervenir sur ce point.
Oui, c'est des étudiants qui peuvent effectivement revenir dans leur pays selon leurs moyens, avec des bourses de vacances une fois tous les 3-4 ans quand tout se passe bien. Mais il y a une liberté, c'est vrai, de circulation dans l'idée, une circulation des idées aussi entre les idées de la FEANF et les associations d'étudiants africains sur les territoires africains. Et c'est des étudiants aussi qui sont courtisés entre l'Est et l'Ouest, car on est en pleine guerre froide. Et donc ces étudiants circuleront aussi dans les pays entre l'Est et l'Ouest.
Si je peux me permettre, effectivement, je pense que le problème de la liberté de circulation est extrêmement important, parce que ça, c'est pas l'Empire, en fait, c'est l'Union française. Et ensuite, ça va être perpétué après 60, jusque dans les années 74. Étudiants et travailleurs, et ça, on l'ignore souvent, ont toute liberté de circulation, n'ont pas besoin de visa, n'ont pas besoin de carte de travail, peuvent s'installer en France pour travailler. Et c'est dans les deux sens. Ça veut dire que les Français aussi peuvent s'installer dans les pays africains pour y travailler ou y rester. Mais il y a toute liberté de circulation. Dans les années 74, cela va changer avec un contrôle sur les étudiants et les travailleurs, bien sûr, sur les circulations. Et c'est là que la donne change. Donc, pour la FEANF, jusque dans les années 74, il n'y a pas de frontière, quelque part. Après, il y en a.
Vous évoquiez à l'instant même, Fabienne Guimond, les craintes du gouvernement français, la volonté de surveiller ces étudiants. Voici ce qu'on disait du côté des archives du gouvernement français, justement, de cette FEANF qui était accusée d'être une fédération crypto-communiste. Daniel Koenigsberg.
L'action du Parti communiste français est telle qu'une forte proportion des étudiants d'outre-mer reviendront dans leur pays, acquis à la cause communiste. Or, il faut bien admettre que ces étudiants, avec ou sans diplôme, jouiront d'un grand prestige auprès des populations, souvent analphabètes, et que certains d'entre eux occuperont des postes de commande. Le péril n'est pas imaginaire.
Alors, un péril communiste dans une société qui était évidemment en pleine guerre froide dans ces années
1955.
50. Voilà, dans ces années 50. Et il faut mettre cela dans la balance pour comprendre pourquoi la FEANF a eu quelques difficultés avec le gouvernement français. Qu'est-ce qu'on craint justement de cette FEANF en l'occurrence?
De toute façon, il y a une paranoïa par rapport aux communistes. On voit des communistes partout, même ceux qui n'en sont pas.
Alors, pour il faut dire qu'à l'époque, le Parti communiste fait quand même 25% des voix. Donc on a,
Bien sûr.
Et le péril rouge, oui.
Le péril rouge. Et effectivement, c'est aussi la guerre froide. Donc tout ça explique cette espèce de parano généralisée. Pour ce qui est de la FEANF, il y a eu effectivement des influences communistes. Enfin, il y a deux choses. La FEANF a pris parti pour des causes qui rendent très nerveux le gouvernement français. La guerre d'Algérie, par exemple, la FEANF soutient la lutte du peuple algérien et s'engage. Il y a des étudiants africains d'Afrique subsaharienne qui sont des porteurs de valises.
Alors même qu'il y a des soldats d'Afrique noire, ce qu'on oublie souvent,
alors qu'il y a
qui combattent en Algérie contre les indépendantistes algériens.
Et la FEANF s'élève contre l'emploi des tirailleurs en Algérie, soutient le peuple algérien, a des relations très étroites avec l'UGMA, l'Union Générale des Étudiants Musulmans, et va faire imprimer, publier un opuscule de quelques pages qui s'appelle « Le sang de Bandung », en référence à Bandung, la conférence de 1955 des peuples de ce qu'on appelle le tiers-monde. Voilà, « Le sang de Bandung », dont le maître d'œuvre est en fait Jacques Vergès, qui a été toujours très proche de la FEANF, qui a été le secrétaire général d'un comité anticolonialiste qui réunissait la FEANF, mais aussi les étudiants vietnamiens, les étudiants algériens, etc. Et qui a été également très très proche, même en poste, à l'Union internationale étudiante de Prague, qui évidemment est sous influence de Moscou, et qui est elle aussi...
Il a vécu un temps d'ailleurs du côté de Prague, d'après ce qu'on croit savoir.
Tout à fait, il a vécu à Prague. Et l'UIE est donc en lien avec la FEANF. La FEANF est adhérente de l'UIE à partir de 1956. Autre cause soutenue par la FEANF, c'est celle des Camerounais, de l'Union des populations du Cameroun.
L'UPC.
L'UPC, et je rappelle que le Cameroun est en guerre depuis 1955 et que d'ailleurs un certain nombre des membres de la FEANF, comme Ossende Afana, mourront dans cette guerre. Ossende Afana, ce sera en 66 au Cameroun. Par ailleurs, l'influence communiste est réelle à partir d'un certain moment. Les tout débuts de la FEANF sont modérés, entre guillemets. La première présidente, qui est une femme assez extraordinaire, est une femme plutôt modérée, c'est Solange Faladé, qui est, excusez du peu, la petite fille du roi Béhanzin, et qui par ailleurs sera une disciple, sera l'analysante de Lacan et la fondatrice de l'école freudienne. Là, c'est la FEANF modérée. La FEANF va se radicaliser sous influence communiste, ou en tout cas parce qu'elle considère que ses alliés naturels sont les communistes, en particulier à partir de 1957 et la création du Parti africain de l'indépendance, dont les membres vont être les dirigeants de la FEANF à partir de ces années-là.
Oui, au moment de cette guerre d'Algérie également, Françoise Boum ou Fabienne Guimond, c'est à ce moment-là aussi qu'il va y avoir une scission entre la FEANF et l'UNEF. Parce qu'il faut dire que cette Fédération des étudiants d'Afrique noire, évidemment, ils ont des relations avec les associations d'étudiants en France. Et donc, effectivement, la FEANF va s'allier avec plutôt l'UGMA, alors que l'UNEF, elle, va se dissocier de l'UGMA.
Fabienne Guimond, vous voulez réagir sur ce point, sur la place justement de cette fédération par rapport à la grande fédération des étudiants en France qui était l'UNEF?
Oui, c'est vrai. En fait, à un moment donné, effectivement, l'UNEF n'a pas partagé les positions assez radicales de la FEANF et ils se sont séparés, ils se sont plus retrouvés. Après, ce que je voulais rajouter aussi par rapport au PCF, c'est que, en fait, la justification a posteriori de la création de la FEANF, ça a été aussi en 1950 de dire le Rassemblement démocratique africain s'est désapparenté du PCF, et donc c'est une trahison pour les peuples africains, et donc la FEANF s'est construite aussi sur cette image d'engagement radical et sans compromission avec les...
Avec un parti particulier.
Oui.
Alors, vous pouvez nous expliquer comment cette FEANF fait sa promotion à l'intérieur du territoire auprès justement de ces populations d'étudiants? Il y a des journaux, l'étudiant d'Afrique noire en fait partie, c'est le grand journal de la FEANF, Françoise Blum,
qu'est-ce qu'on y dit? Alors, le journal de la FEANF, c'est l'étudiant d'Afrique noire, effectivement. On y dit beaucoup de choses. Il y a des numéros qui ont porté très fort et dont certains ont été interdits, par exemple Nazisme et Attila au Cameroun, qui est un des numéros phares. L'étudiant d'Afrique noire est diffusé en France. Y écrivent, en gros, les membres du comité exécutif de la FEANF, mais aussi, quelquefois, à partir d'une certaine date, les membres des sections nationales. Je rappelle que les sections territoriales et les plus tard sections nationales. Je rappelle que la FEANF est organisée suivant est une fédération avec des sections académiques qui correspondent aux villes où étudient les étudiants et des sections territoriales puis nationales à partir des indépendances en 60. Donc l'étudiant d'Afrique noire est un des créneaux de diffusion, mais la FEANF n'est pas seulement un organe politique, même si le politique y occupe une place pour, en tout cas, c'est entre guillemets élite de la FEANF, c'est aussi une fédération qui organise des manifestations culturelles, en particulier les Nuits de l'Afrique, qui sont régulièrement organisées et qui sont là pour d'abord réunir des étudiants africains un peu isolés autour de fêtes, d'activités culturelles, mais aussi pour promouvoir la culture africaine auprès de populations étudiantes françaises.
Il y a un lien avec ce qui se passe rue des écoles, du côté de la Sorbonne, présence africaine et tout ce milieu d'intellectuels et d'écrivains africains aussi, Françoise Blum?
Oui, tout à fait. La FEANF est en lien avec Présence africaine, qui, je le rappelle, a été créée par Alioune Diop et qui publie une revue, du même nom, Présence africaine. Un des numéros de cette revue, en 1953, est entièrement organisé, coordonné par la FEANF, et y ont écrit des étudiants qui sont membres de la FEANF. Et c'est dans ce numéro en 1953 que Majmoud Diop, un étudiant qui va être à la création du PAI, du Parti africain de l'indépendance, écrit un article célèbre qui appelle à l'indépendance et l'indépendance immédiate.
Alors, un autre extrait d'une autre revue, la revue justement de la FEANF, l'étudiant d'Afrique noire. Nous sommes en 1957, vous nous avez expliqué l'une et l'autre que cette date était plutôt un tournant, c'était un changement. Effectivement, on voit les volontés d'indépendance devenir quasiment réelles à ce moment-là, du côté de 1957. C'est le manifeste des étudiants d'Afrique occidentale à propos des congrès. Il nous est lu ce manifeste par Daniel Königsberg.
Manifeste des étudiants d'Afrique occidentale à propos des congrès du MSA, Mouvement socialiste africain, les 11, 12, 13 janvier 1957 à Conakry, du congrès interterritorial de regroupement aux mêmes dates à Dakar et du BPS, Bloc populaire sénégalais, en février. Ce que nous aurions voulu dire à ces différents congrès. Bientôt, des congrès de partis politiques africains vont tenir leurs assises pour définir les bases d'un nouveau programme. Les jeunes, en général, sont très inquiets quant aux résultats de ces assises, surtout quand ils se réfèrent à l'orientation politique de tous ces partis qui s'acheminent progressivement vers l'intégration et tournent résolument le dos à une politique d'indépendance nationale pratiquée par tous les pays coloniaux qui ont recouvré leur liberté ou sont en voie de la recouvrer. Nous avons peur qu'au moment où partout en Asie, en Afrique du Nord, au Cameroun, une nette prise de conscience nationale se consolide, les partis politiques d'Afrique noire cautionnent, appuient, encouragent la néfaste politique colonialiste de la réaction française. Nous avons peur qu'une politique fatale au pays soit définie, politique qui ne serait que le replâtrage du pacte colonial malgré les fictions juridiques dont on l'affublera. Nous sommes quant à nous décidés à ne plus tolérer, par un silence complice et lâche, l'action malfaisante des partis africains, des leaders politiques africains, qui considèrent les masses de ce pays comme des choses dont ils peuvent disposer comme de leurs propres biens. Nous considérons en effet qu'il est de notre droit et de notre devoir de participer d'une manière ou d'une autre à la politique de notre pays, car cette politique a été jusqu'ici pensée sans nous et trop souvent contre nous. Nos hommes politiques assoiffés d'honneur et de postes ministériels font fi des aspirations profondes du pays qui les a mandatés pour la défense de ses intérêts spécifiques. Les parlementaires se sont inféodés à des partis métropolitains réactionnaires et colonialistes défendant exclusivement le patrimoine français. C'est pourquoi les massacres de patriotes en Algérie, au Cameroun, par les colonialistes, les laissent indifférents. C'est pourquoi ils assistent impassible à l'exploitation des masses laborieuses de ce pays. C'est pourquoi, malgré les cris d'alarme des jeunes dès le début, ils ont accepté la division politique et administrative de l'AOF, division consacrée par la funeste loi cadre dépassée dès sa naissance. C'est pourquoi, messieurs Lamine Gueye, leader du Parti socialiste au Sénégal, membre du comité directeur de la SFIO métropolitaine, représentant de la France à l'ONU, promoteur du MSA, et Oufouette Boigny, leader du RDA et ministre du gouvernement réactionnaire à direction socialiste, ont condescendu à colorer la délégation française pour défendre aux Nations Unies les intérêts du colonialisme français au Togo. Nous sommes convaincus que, sans indépendance politique, il ne sera jamais possible au pays de s'épanouir économiquement, socialement, culturellement. Nous sommes convaincus que dans le cycle infernal du colonialisme, toute réforme est nulle tant que la métropole entend conserver sa souveraineté politique sur les territoires considérés par elle comme chasse gardée. Nous ne sommes ni des illuminés, ni des anti-français. Nous ne sommes hostiles ni à un peuple, ni à une race. Nous sommes contre un système, contre une politique.
Une Il est 9h35 sur France Culture. Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire. Aujourd'hui, nous parlons dans cette Fabrique de l'Histoire de la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, une fédération née en 1950-1951 et qui va œuvrer pour les indépendances et également pour le panafricanisme. Séverine Niatar.
Et nous venons d'entendre donc un texte lu par Daniel Konigsberg, un manifeste des étudiants de 1957, où on l'entend bien qu'il y a une critique absolument véhémente des gouvernements africains. C'est-à-dire qu'on entend bien que la FEANF, elle n'est pas pour une émancipation assistée, hein, elle est pour une émancipation totale et immédiate, très critique vis-à-vis de cette loi cadre de 1956, très critique vis-à-vis de chefs d'État, comme par exemple Léopold Senghor. Et donc, voilà, Fabienne Guimond, en ce sens-là, oui. elle est
effectivement sans concession vis-à-vis des parlementaires africains qui sont rentrés donc
Oufuel Boigny,
voilà,
etc.
À l'Assemblée nationale. Et donc, pour eux, le repoussoir, c'est effectivement la communauté franco-africaine. Ils feront notamment campagne lors du référendum pour le non, et non, notamment auprès de Sékou Touré, donc en Guinée, qui sera le seul des territoires africains à voter non à la communauté franco-africaine. Et ils ont un modèle, ces étudiants, c'est celui de la Gold Coast, qui deviendra le Ghana indépendant en 1957. Et donc, c'est leur modèle, c'est Kwame Nkrumah qui a obtenu déjà l'autonomie interne de la Gold Coast en 1951. Ce n'est pas du tout le modèle d'intégration, d'assimilation de la communauté franco-africaine que prône la France.
Alors, on n'entend pas dans ce qu'ils disent la France-Afrique, puisque le terme n'a pas encore été inventé, mais on entend replâtrage du pacte colonial ou encore chasse gardée des colonialistes pour l'Afrique. On voit bien que quelle est l'idée qu'il y a derrière tout cela, à savoir s'il ne fait pas une rupture franche avec la puissance coloniale, Françoise Blum, eh bien on se retrouvera toujours sous tutelle, et y compris encore jusqu'à aujourd'hui.
C'est-à-dire que la FEANF s'oppose, en tout cas essentiellement à partir de 57, mais même avant, à tout ce qui a tenté de réformer l'Empire français, c'est-à-dire la création de l'Union française en 46, la loi cadre, comme on l'a vu, en 56, et la communauté franco-africaine, comme vient de le dire Fabienne. En fait, l'idée de la FEANF, c'est un peu difficile de parler de la FEANF, disons, des dirigeants de la FEANF, c'est que les réformes, c'est une voie illusoire pour sortir de l'Empire. Et ce qu'il faut adopter, c'est une voie révolutionnaire. Mmh. Et ça, c'est lié évidemment au devenir marxiste de l'équipe dirigeante de la FEANF, qui croit en la lutte des classes, en tout cas à partir de 57, et qui considère encore une fois que les réformes sont une illusion. Après les indépendances de 60, ça sera la même chose. La FEANF et ses dirigeants considéreront les nouveaux États africains comme, je cite bien sûr, des gouvernements fantoches, des vallées de l'impérialisme, des relais du néocolonialisme.
Alors, d'ailleurs, c'est ce qui explique peut-être que dans ces années 1957, Guy Mollet est au pouvoir à ce moment-là, si je ne me trompe, eh bien, le pire ennemi de la FEANF, eh bien, c'est d'abord, ce sont les socialistes qui sont au pouvoir en France. Un exemple avec cet article de Noé Kutuklui, pardon, vice-président de la FEANF à ce moment-là, qui s'intitule « La peur de la liberté », qui est publié dans « L'étudiant d'Afrique noire » en mars 1957. On l'écoute, lu par Daniel Konigsberg.
En général, dans un régime démocratique, lorsque les autorités décident de saisir un journal, les services compétents indiquent, sur demande, à la direction de la publication, les motifs de la décision et surtout le ou les articles déterminés, incriminés. Par deux fois en trois mois, l'étudiant d'Afrique noire, organe mensuel de la FEANF, a été saisi, semble-t-il de l'aveu même de la préfecture de la Haute-Garonne, pour l'ensemble de son contenu. Ainsi, des études d'ordre purement culturel ou économique sur l'Afrique, les conditions de vie matérielle des étudiants africains en France, les résolutions d'un congrès statuaire, sont autant de publications jugées pour le moins répréhensibles. Quand un gouvernement à direction socialiste en arrive à cette extrémité, on doit simplement conclure que ce qui gêne avant tout, c'est l'existence même de notre presse étudiante. Nous avons tort d'avoir choisi d'exposer librement, sans souci d'un conformisme accommodant pour le néocolonialisme, payant à tous ses égards dans le système, ce que nous considérons être la vérité sur les problèmes de notre pays, l'Afrique colonisée. Cette tentative d'étouffer la voix des étudiants, de la jeunesse qui se dresse pour hâter l'agonie d'un système rétrograde,
périmée et condamnée par l'évolution historique, traduit une peur, celle de la vérité.
Voici donc ce qu'écrivait dans L'étudiant d'Afrique noire en mars 1957, Noé Koutoukloui, donc, qui était vice-président de la FEANF. Alors qu'est-ce qu'on peut commenter, qu'est-ce qu'on peut dire de ce texte, justement, Fabienne Guimond?
Oui, c'est vrai que L'étudiant d'Afrique noire, donc le journal des étudiants africains en France, a été inquiété à de nombreuses reprises. On voit qu'effectivement, le siège de la rédaction change souvent pour essayer d'échapper au contrôle, qu'il y a des pressions sur les imprimeurs. Et puis, de façon assez nette, il y a des pressions sur les bourses des étudiants africains. Et entre 1960-1965, on peut considérer qu'il y a une cinquantaine d'expulsions qui sont soit faites par le gouvernement français ou à la demande des gouvernements africains qui aussi veulent maîtriser leurs étudiants africains en France après les indépendances, demandent parfois, comme pour la Côte d'Ivoire avec Oufouette Boigny, des expulsions, des extraditions au gouvernement français.
Cyril Niata.
Et donc on voit bien qu'il y a une phraséologie comme ça, révolutionnaire. Ils sont favorables à l'émancipation des peuples. Je crois qu'aussi, à un moment donné, bon, il y a cette affaire du Cameroun qui va beaucoup aussi marquer les esprits, mais au moment aussi de la guerre d'Algérie, je crois qu'ils se demandent, et pourquoi pas une guerre, est-ce que ça n'amènerait pas éventuellement à une émancipation immédiate et non pas une intégration, une assimilation progressive. Enfin, il y a ce côté, comme vous le disiez, Françoise Blum, révolutionnaire, parfois à l'extrême.
Oui, révolutionnaire, mais il faut aussi...
Alors, est-ce qu'il faut modérer un petit peu? Est-ce que voilà,
non,
on est dans
aussi
se souvenir dans la rhétorique
des langages rhétoriques révolutionnaires de l'époque. La FEANF, en ce sens, n'est pas totalement isolée. Ça veut dire elle adopte, en particulier dans les années 60, c'est les mots d'ordre du gauchisme multinational, je dirais. Donc, elle n'est pas seule. Les mots d'ordre néocolonialisme, lutte contre l'impérialisme, qui seront fortement employés pendant les années 60, c'est largement partagé, en fait. Mais c'est vrai que dans les années 50, elle fait quand même l'objet d'une surveillance policière très, très, très attentive avec les saisies dont on vient de parler, saisies du centre Bandung, saisies de numéros de l'étudiant d'Afrique noire sur le Cameroun et quelquefois exil obligatoire de certains de ses étudiants. Là, il était question de Noé Koutoukloui, qui était un Togolais, qui a été vice-président et président de la FEANF et qui mourra d'ailleurs en exil bien des années plus tard. Albert Evogere, qui a aussi été un des rédacteurs en chef de l'étudiant d'Afrique noire, est obligé un certain temps de se réfugier en Suisse. Donc, c'est pas si facile que ça de militer à la FEANF, en fait. Pour ce qui est de la guerre, je pense pas qu'ils aient envisagé quelque guerre que ce soit. Il y avait déjà deux guerres, l'Algérie, le Cameroun. Mais la violence, de façon un peu générale, est une voie qui n'est pas à exclure.
Comment le panafricanisme est-il rentré dans cette vision de la FEANF? Parce qu'on a entendu la lutte pour les indépendances, ça on l'a bien compris, c'est la base même de la création après les questions de vie matérielle des étudiants d'Afrique noire en France. Mais le panafricanisme est entré à quel moment dans la discussion et dans le discours, Fabienne Guimond
Je pense que le panafricanisme, en fait, il est consubstantiel à la FEANF, puisque, comme le rappelait Françoise, la FEANF est organisée en sections territoriales et en sections académiques, mais elle regroupe tous les étudiants d'Afrique noire de l'Empire français. Et du coup, ce panafricanisme, il est structurellement lié à la constitution de la FEANF.
Françoise Blum.
Oui, le panafricanisme, c'est consubstantiel à la création de la FEANF, comme vient de le dire Fabienne. Il faut dire que le panafricanisme n'était pas vraiment une idée neuve. Ça avait été sous l'égide en particulier de Du Bois, de l'américain Du Bois, organisateur de grands congrès entre les deux guerres. Donc, ce n'était pas quelque chose de neuf. Et il y a une sensibilité fortement panafricaine dès les débuts de la FEANF.
Et on a cité le nom de Nkrumah tout à l'heure, qui est un des grands porte-parole du panafricanisme.
Aussi un des porte-parole du panafricanisme, un de ses conseillers, Georges Padmore, qui a été un grand panafricain après avoir été communiste. Ceci dit, le panafricanisme de la France n'est pas tout à fait celui de Nkrumah. Mmh. Il y a en particulier en 1958 une conférence des peuples africains à Accra où la FEANF, ou en tout cas ses délégués, s'oppose à un panafricanisme ghanéen qu'il juge trop imbu des théories de la non-violence. Mmh. Et le panafricanisme de la FEANF est plus, disons, se veut plus combatif. Mais l'idée, c'est que l'Afrique doit être indépendante, certes, mais indépendance dans l'unité, et que la loi cadre a été l'instrument de la balkanisation.
Et de la division entre les pays.
Et de la division entre les pays.
Oui, simplement, quand on regarde en fait, le magazine L'étudiant d'Afrique noire, le logo en fait, de ce magazine, c'est le continent africain avec une jarre percée et des mains qui essayent de boucher les trous, et qui reprend une phrase du roi Dabomey qui dit « Si tous les fils du royaume venaient par leurs mains assemblées boucher les trous de la jarre percée, le pays serait sauvé. » Donc c'est vraiment cette idée que tous ensemble, ils peuvent sauver et redresser l'Africain.
Oui, il y a cette idée qu'il ne faut pas non plus se bercer d'illusions, que le panafricanisme ne suffit pas. Eux-mêmes disent, certes, la lutte ne se situe pas au niveau des races, mais au niveau des exploiteurs, des exploités. Enfin, très vite, la FEANF va adopter un discours...
Ça, c'est le langage marxiste de la FEANF. Marxiste de la FEANF, effectivement. Voilà. Alors que le panafricanisme n'a rien de spécialement marxiste. Effectivement, pas de mort, par exemple, est venu du communisme vers le panafricanisme. Mmh. Mais c'est l'époque lutte de classe de la FEANF qui commence justement, qui s'affirme au niveau de son état-major à partir de la création du PAI en 57.
Fabienne Guimond.
Oui, la radicalisation et la phraséologie marxiste s'exacerbent aussi au moment des expulsions. En fait, plus il y a d'expulsions, plus il y a une radicalisation et une récupération aussi de certains étudiants par l'URSS, notamment à l'université Patrice Lumumba.
On en parlera demain d'ailleurs de ces universités.
Et au moment de la scission sino-soviétique, là aussi, il va y avoir des Mao d'un côté à la FEANF et puis des pro-soviétiques. Et ça aussi, ça va anticiper une autre.
Tout à fait. La scission sino-soviétique va avoir un impact considérable, comme elle l'a eu pas seulement à la FEANF, bien entendu, mais à la FEANF en particulier. Disons qu'à partir de 65, l'état-major de la FEANF est pro-chinois. Enfin, je dis pro-chinois avec plein de guillemets parce que certains dirigeants de la FEANF m'ont expliqué que c'était pas ça du tout, que c'était une fidélité au vrai marxisme qui avait été trahi par l'Union soviétique. Pro-chinois ou pro-albanais. Il y a eu des relations très fortes entre le gouvernement albanais et la FEANF. Dans les années 60-70, des gens comme Robert Dossou, président de la FEANF qui est lui dahoméen, a été très souvent voyagé en Albanie, parce qu'il faut se dire que dans ces années-là, les invitations à l'égard des membres de la FEANF étaient multiples. En Russie, aux conférences internationales, Mao a serré les mains d'un nombre incalculable de dirigeants de la FEANF, Enver Hoxha de même. Et à l'intérieur des associations nationales qui sont fédérées à la FEANF, il y a aussi eu des scissions entre, par exemple, l'UNEC, l'Union des étudiants camerounais, entre moscoutaires, comme on disait, et pro-chinois.
Alors, il faut peut-être expliquer que avant cette scission sino-soviétique, il y a évidemment les indépendances. Qu'est-ce que changent les indépendances à la politique de la FEANF? Parce que tout compte fait, on peut se dire, à partir de 1960, c'est très différent. Or, qui sont les ennemis de la FEANF à partir de 1960? Vous avez travaillé sur ce sujet-là, Fabienne Guimond.
C'est un peu paradoxal, effectivement, parce qu'en 1960, les indépendances sont acquises. Donc, une partie du slogan de la FEANF, c'était donc l'indépendance totale immédiate et acquise. Sauf que, en fait, les gouvernements qui vont être mis en place au moment des indépendances, ce seront rarement les dirigeants les ex-dirigeants de la FEANF qui occuperont ces postes. Et donc, ça va être assez paradoxal, effectivement. Du coup, ce ne sera plus effectivement le gouvernement français en tant que tel qui sera visé, mais ce sera l'impérialisme de façon plus générale.
Mm-hmm. Françoise Blou.
Il y a une filiation entre l'avant 60 et l'après 60 pour la FEANF. C'est-à-dire, les gouvernements des années 60, c'est pour certains les mêmes que ceux qui était déjà en place dans les territoires dans les années précédentes. Et le mot d'ordre de la FEONF était effectivement indépendance avant 60. Après 60, il va être une indépendance réelle. Parce que la FEONF et ses dirigeants, en tout cas, encore une fois, il faut faire une différence entre la FEONF en général et ses dirigeants, considèrent que les États africains sont des agents du néocolonialisme, du colonialisme français. Et ils vont dénoncer très fort, par exemple, ce qui lie encore la France à ses anciennes colonies, qui sont les accords de coopération, et que toutes les révolutions africaines des années 60 vont également dénoncer.
Eh bien, justement, le 14e congrès se tenait en 1961, ce 14e congrès de la FEANF, et nous en lisons quelques-unes des conclusions, en particulier la motion de politique générale. C'est Daniel Königsberg qui nous la lit.
La FEANF réunit en son 14e congrès, 94 rue Jean-Pierre Timbaud, du 27 au 30 décembre 1961, se réjouit de constater la justesse des thèses de son 12e congrès réaffirmé lors de son 13e congrès extraordinaire, réaffirme sa fidélité à toute la ligne définie par la résolution de politique générale de ce congrès. Poursuivant plus avant son analyse, le congrès constate avec satisfaction que l'impérialisme a été sérieusement ébranlé dans ses assises au cours de l'année écoulée. Les nouvelles victoires du mouvement de libération nationale ont été rendues possibles par l'aggravation des contradictions entre l'impérialisme et nos peuples, ce qui entraîne la prise de conscience, la mobilisation toujours plus effective des masses populaires et aussi les possibilités énormes créées par le renversement du camp socialiste, dont le soutien indéfectible a été et demeure un facteur déterminant dans la marche victorieuse de notre révolution. L'essor prodigieux de la lutte armée en Algérie, au Cameroun, en Angola, en Guinée sous domination portugaise, l'échec retentissant de l'agression américaine contre Cuba, les victoires importantes des forces patriotiques au Laos, au Sud-Vietnam et en Amérique du Sud, l'obligation pour les impérialistes français de reconnaître la représentativité du GPRA, seul mandataire des masses algériennes, l'obligation pour les impérialistes de passer de l'idée d'un Congo balkanisé à celle d'un Congo unifié, fût-ce pour perpétuer leur domination, les puissantes manifestations des populations antillaises et tout récemment, l'action énergique de l'Inde libérant Goa sont autant de preuves du recul de l'impérialisme. Constate que pour survivre et perpétrer sa domination et devant le mouvement grandissant des peuples vers leur indépendance totale, l'impérialisme arbore un nouveau masque, le néocolonialisme. Brandissant l'anticommunisme pour diviser et affaiblir le front uni des forces de libération, les néocolonialistes utilisent des bourgeoisies autochtones antinationales mises en place ou non par eux. Imposent des accords de sujétion, organisent et entretiennent des blocs militaires agressifs, Cento, OTAS, installent des bases militaires et des troupes répressives dans la plupart des pays africains, communautés, pays de l'entente, Afrique centrale, se servent de l'ONU et d'une prétendue aide aux pays nouvellement indépendants ou encore dépendants, Congo, Asie du Sud-Est, Amérique du Sud, entendent, intègrent les pays neufs dans des blocs économiques à caractère impérialiste, marché commun, Eurafrique, OCRS, incompatibles avec leur développement économique et social.
Là, on voit effectivement que le 14e congrès est assez ferme, c'est le moins qu'on puisse dire, dans ses résolutions, Fabienne Guimond. On parlait tout à l'heure de cet état-major, c'est ce que disait tout à l'heure Françoise Blum de cette FEANF. Est-ce qu'il y a des tensions internes entre une direction et le reste des étudiants, Françoise Blum, sur cette question, est-ce qu'il y a des tensions?
Entre le reste des étudiants, je pense qu'il y a eu une certaine désaffection dans les années 60, c'est pas moi qui le pense, c'est ce qui se dit généralement à l'égard de la FEANF, qui est liée à la virulence du vocabulaire employé et à, disons, la fermeté révolutionnaire d'une direction elle-même divisée, comme je le disais, entre pro-russes, pro-chinois. Il y a des étudiants catholiques aussi dans l'état-major, quelquefois. Donc il y a différentes, disons, tendances courantes. Après, ce qu'on disait tout à l'heure, les étudiants en général, ils viennent aussi à la FEANF pour d'autres raisons, comme les Nuits de l'Afrique, les festivités, etc. Mais c'est sûr que dans toutes les années 60, au début des années 70, le vocabulaire de la FEANF est extrêmement militant et simplificateur.
Fabienne Guimond.
Oui, puis je pense qu'effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que les dirigeants de la FEANF n'aient pas pu prendre des positions politiques au retour dans leur pays, a peut-être aussi radicalisé leur discours, en
de
tout
trouver
cas.
De place, ils n'ont pas trouvé de
voilà,
place politique.
Voilà, c'est ça. Et effectivement, il y a un ancien étudiant africain qui parlait en fait de ruses de l'histoire, hein, c'est-à-dire que ceux qui avaient pris des positions politiques en France n'ont pas eu de position politique au retour dans leur pays.
Séverine.
En tout état de cause, les autorités françaises pense qu'il y a des formes de... la FEANF exerce une autorité aussi sur les étudiants africains, qu'elle les embrigade, qu'il y a des mesures de représailles, et que du coup, il faut aussi agir. Et parallèlement, il y a aussi un mouvement des étudiants africains qui pense que, certes, il est nécessaire d'avoir un engagement politique, mais que quand même, la question du diplôme, puisque les moyens de répression sont aussi ceux-là, c'est-à-dire suppression des bourses, expulsion éventuelle, donc ça veut dire fin des études. Donc comment, dans ce mouvement-là, ça va se dérouler après 1960.
Le major de la FEANF, ou en tout cas les plus engagés à la FEANF et les gouvernements africains, c'est une lutte permanente dans les années 60. Les gouvernements africains ayant comme arme principale soit la création d'associations d'étudiants fantoches pour remplacer la FEANF, soit la suppression des bourses, comme vous venez de le dire. D'autres, quelquefois, des menaces encore plus précises, je pense en particulier à Sékou Touré, ou alors simplement acheter les gens, ce qu'a fait régulièrement Oufouette Boigny. Alors, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'il y a eu quand même des dirigeants de la FEANF qui se sont très bien casés en rentrant au pays. Il y a eu des gens, je pense à quelqu'un que d'ailleurs j'aime beaucoup, comme Ousmane Camara, qui avait été vice-président des affaires panafricaines de la FEANF, un radical qui était lui au Parti communiste, comme l'était Amadi Ali Dieng, et qui est devenu ensuite, en 68, il est chef de la sûreté.
On l'a entendu hier dans le documentaire.
Et voilà. Amadou, sur mai 68. Amadou Mogdarbo, qui est, je crois,
qui a été directeur général de l'UNESCO, qui a été ministre de Senghor, ministre de l'éducation en 68, etc. Donc il y a de tout. Il y a Alpha Condé, qui est l'actuel président de la République de Guinée, était président de la FEANF. Donc il y a eu des gens à la FEANF, il y en a beaucoup qui ont fait de très brillantes carrières politiques. Il y en a beaucoup aussi qui ont fini leur vie dans l'exil ou assassinés dans les maquis comme Hossein Diafana. Donc je pense qu'on ne peut pas vraiment généraliser. Ce dont il faut se souvenir, c'est que au début des années 60, c'est en Afrique en général, le parti unique, l'intégration syndicale, et ça l'a fait en fait son état-major, s'oppose au manque de démocratie des États africains, très, très fermement.
Mais est-ce que c'est vrai que donc, la FEANF, elle exerce une pression sur les étudiants africains pour les obliger d'une certaine manière à militer avec elle, ou c'est une appréhension du gouvernement français, ou...
Parce que bon, c'est quand même une pression. Je dirais que les dirigeants de la FEANF sont de vraies têtes politiques, sont des grands stratèges, et que ceux qui ont pu quelquefois assister au débat disent que c'était vraiment des gens extrêmement doués, hein, politiquement. Et donc, ils ont évidemment exercé une influence. Quelquefois, ils mettent un peu d'eau dans leur vin pour les congrès, etc. Ne pas prononcer, par exemple, le terme de lutte des classes, pour ne pas faire peur aux étudiants, à la masse des étudiants. Mais ils veulent exercer une influence. Voilà. Après, quelle est la réalité de cette influence? La plupart des gens qui ont été à la FEANF gardent de la FEANF un souvenir absolument ému. Ça a été quelque chose de très beau. Quel qu'ait été ensuite leur itinéraire,
de stimulant en tous les cas.
De stimulant, ça a été une belle tranche de vie. Voilà. Je crois que la FEANF est restée une espèce de pôle d'attraction, et qu'on se dit toujours avoir été membre de la FEANF. Ça reste une carte de visite.
Merci à vous, Françoise Blum. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre tout récent qui fait le point sur un sujet fort intéressant qu'il est toujours utile de revoir, à savoir les révolutions africaines, sous-titré Congo, Sénégal, Madagascar, années 60, années 70. Donc, c'est paru aux presses universitaires de Rennes il y a une quinzaine de jours. Et puis, le livre pionnier sur ce sujet-là, on peut le dire tout de même, Fabienne Guimond, c'était le vôtre, Les étudiants africains en France, 1950-1965, avec une préface d'Odile Gorg. Donc, c'était à l'Harmattan. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler de cette FEANF, et merci à Daniel Koenigsberg d'avoir lu les textes choisis par Séverine Yattard. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Abolivier, Aurélie Marcet, Alexandre Dang était à la technique et Véronique Samouilov à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet www.franceculture.fr. Vous pouvez la télécharger pendant un an après sa diffusion, l'écouter sur 3 ans. Vous pouvez laisser vos commentaires sur nos pages, n'hésitez pas à le faire. Nous écrire également à fabrique@radiofrance.com. Discuter avec nous sur le groupe des Amis de la Fabrique de l'Histoire sur Facebook, ou nous suivre sur le réseau Twitter. Demain, nous nous retrouvons, Séverine, pour évoquer justement ces étudiants qui ne sont pas venus en France, mais qui sont partis dans les pays socialistes.
Peut-être donc, en Albanie, justement.
Oui. Et en tout cas, du côté de Moscou et de l'université Patrice Lumumba.